Comme je vous l'avais dit, Jésus a reproché à ses disciples de savoir prédire le temps, hein, mais de ne pas reconnaître le temps dans lequel ils étaient sur le plan de l'histoire, hein, sans parler du spirituel, de l'histoire. Hein, on est dans une histoire. L'histoire, il y en a qui nous ont précédés, d'autres qui vont nous suivre. Et cette histoire, c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes. Cette histoire, vous savez, dans les autres religions, en particulier le bouddhisme et dans les autres aussi, l'histoire, elle est circulaire. Elle est circulaire. Un homme naît, il meurt, il 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 naît, il meurt. Voilà. Le temps est circulaire. Dans la Bible, le temps est linéaire. Une grande différence entre les deux approches du temps. Il est linéaire. Il y a un début, une fin. Alpha, oméga, début, fin, vous voyez. La Bible, c'est une genèse à l'Apocalypse. C'est une histoire qui nous est relatée. Ce que nous vivons, ce que nous lisons dans la Bible, ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre d'histoire. C'est un livre de la rédemption, comment Dieu rachète les hommes. Et il le fait au travers de l'histoire humaine. Voilà. Et donc nous sommes dans une histoire aujourd'hui. C'est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions savoir où nous sommes. Allô ? Aidez-moi un petit peu à faire des hochements de tête. Voilà. C'est la différence entre ce qu'on vit là et... Vous voyez, j'étais très très mal à l'aise quand j'étais derrière les caméras, voilà, de Florence qui me prenait en image. Je ne voyais pas du tout ce qui se passait dans la salle. Hein. Il n'y avait pas de salle. Ou derrière les écrans. C'est extraordinairement différent. Et ça m'encourage de vous voir et de voir que voilà, vous adhérez à ce que je dis. Nous sommes dans un temps de déchristianisation accélérée. En Occident, nous avons été privilégiés d'être évangélisés les premiers. Bon, l'Inde aussi a eu son évangélisation, puisque Thomas, il a encore une grande notoriété en Inde, où il est parti évangéliser. Mais en Occident, on a eu la particularité que tout l'Occident a été influencé par le christianisme. Okay. Du 4e ou 5e siècle, à partir de là, jusqu'au 18e siècle. 18e siècle, il y a eu un renversement considérable. L'humanisme a pris le dessus, la raison a pris le dessus, elle a été établie, en particulier dans notre pays, comme voilà, l'idole, le dieu suprême, la raison. Et nous, on a exporté dans les pays du monde entier, se baser sur la raison plutôt que sur la foi. Et donc la déchristianisation a été proclamée, avancée, annoncée, et s'est déployée à l'échelle mondiale, et l'Occident s'est déchristianisé. Cette accélération se poursuit de manière exponentielle, pas simplement linéaire, mais la courbe, vous savez, c'est comme le corona, hein, elle monte, voilà, elle monte de manière exponentielle. Et il y a deux phénomènes que je voudrais évoquer, qui sont des signes de cette accélération de la déchristianisation de notre monde, et surtout de l'Occident. C'est un, la culture de l'annulation. Je vous dirai ce que c'est tout à l'heure. La culture de l'annulation et le retour de la sorcellerie. Alors, le retour de la sorcellerie, ça m'a été mis en évidence par Jérôme, qui est là. Bonjour Jérôme. Merci pour cette alerte que tu as mis sur le WhatsApp fraternel, je crois. Et vous, c'est bien ces outils, hein, ça nous permet d'échanger et d'être aussi des lanceurs d'alerte. Et il a dit que TikTok, vous connaissez TikTok ? C'est une application pour les jeunes, oui. Sauf qu'il y a 1 milliard d'abonnés, hein, c'est pas un petit truc. C'est quelque chose qui vraiment, et quand on dit les jeunes, c'est en dessous de 18 ans, hein, déjà 12 ans, 11 ans, enfin tous ceux qui ont des iPhones utilisent TikTok. Et sur ce TikTok, en particulier pendant le confinement, l'article que Jérôme m'a envoyé, vous pouvez le regarder, ce sur quoi je vais parler, certainement prochaine fois. Eh bien, ce TikTok, eh bien, il aide à promouvoir la sorcellerie. Et la sorcellerie des, ce qu'ils appellent des baby witches, c'est-à-dire des bébés sorciers ou sorcières, hein, qui 12 ans, 13 ans, 14 ans, et ils jouent aux sorciers. Et c'est assez, impressionnant. Hein. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller dans les pays en voie de développement pour faire de la sorcellerie. Ça revient, mais alors à une vitesse et à une importance. Sorcellerie, c'est d'essayer de changer le monde. Vous voyez, je ne sais pas si vous étiez des adolescents normaux. Moi, j'étais un adolescent normal. Je voulais, à mon époque, changer le monde. C'est normal, on arrive, on voit les parents, qu'est-ce que c'est que ce monde qui nous laisse, un truc qui ne va pas. On veut changer le monde, c'est normal, c'est les adolescents. Mais là, vous voyez, ils tombent dans la sorcellerie. Voilà. Et donc, c'est absolument, absolument effarant. Donc, c'est ce deuxième élément que je voudrais aborder, mais je crois que je n'aurai pas le temps ce matin. Donc, je vais parler de la culture de l'annulation, qui est aussi quelque chose qui se propage et qui déchristianise complètement notre société occidentale. La mentalité orientale de l'honneur et de la honte s'est déplacée vers nous, vers l'Occident. Tu es annulé de la société, tu es annulé, tu n'en feras plus partie. C'est une manière de créer une pensée unique. Une manière d'exclure ceux qui ne pensent pas comme tout le monde. Regardez le professeur Raoul. Hein, vous voyez. Bon, je ne le défends pas au sens de son caractère, hein, pas facile. Mais vous voyez, c'est haro sur le baudet quand il y a une pensée unique qui est développée et qui ne pense pas. On n'est plus dans le respect des opinions. C'est vraiment, on annule les gens. J'avais regardé un documentaire pendant le confinement sur Arte. J'aime beaucoup ces documentaires qui sont travaillés, vous voyez, c'est pas juste une prise de vue, c'est voilà. Et un documentaire sur le Japon, que je connais pas, Japon personnellement, mais il montre que c'est une culture extrêmement collective, hein, très très collective, au détriment de l'individu. C'est extrêmement collectif. Il y a très peu de personnes dans les prisons. Hein. C'est ceux où il y a le moins de monde en prison, parce que voilà, tout le monde respecte le collectif. Hein. Je peux pas vous donner de taux. Maintenant, je les ai plus en tête. Mais voilà, ce documentaire, c'est incroyable comment il montre le collectivisme naturel des Japonais. Mais bon, il y a aussi l'Inde, il y a aussi la Chine, la Corée, etc. Mais le Japon, c'est vraiment extrême. Et dans ce documentaire, ça m'a effaré de voir combien l'individu ne valait rien. Voilà, c'est le collectif. L'individu doit soutenir le collectif. Alors que le christianisme, il respecte l'individu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque c'est quoi ? C'est un individu. Vous voyez, c'est pas un collectif. Vous voyez. Quiconque. Donc l'individu a été valorisé. Mais aussi l'Église, le groupe. C'est vrai qu'il y a les deux. C'est ce que j'appelle un raisonnement complexe. C'est paradoxal, mais les deux, l'individu et voilà. Ça, c'est le christianisme. Et les deux fonctionnent en même temps. Hein. C'est dans Galates, il est écrit que il n'y a en Christ ni homme, ni femme, ni juif, ni barbare, ni esclave, ni. Et vous, tous sont égaux. Alors que dans toutes les civilisations païennes, la civilisation est hiérarchisée. Hein, au temps de Jésus, c'était César Auguste, hein, qui était soi-disant descendant de la déesse, je ne sais plus laquelle maintenant, qui prétendait qu'il était né d'une déesse. Hein. Donc il est divin. Donc un homme divin, pharaon en Égypte, c'est pareil, un divin, voilà, donc il a quelque chose de plus. Et ensuite, après, il y a les castes et tout ça, sans parler des castes en Inde. Tout ça, ça a été éradiqué avec le christianisme. Tous sont égaux. Les droits de l'homme ont repris ça, hein, au niveau humanisme, mais le christianisme l'a établi comme un fait. Hein, au temps de Jésus, l'Église était révolutionnaire de ce temps-là. Elle a révolutionné la conception, la mentalité de l'époque romaine. À ce moment-là, c'est pour ça qu'elle a été persécutée. Vous savez, la persécution, c'est pas juste gratuit parce que l'ennemi pousse les gens, c'est parce que ça gêne, ça dérange, ça perturbe le mode de vie de l'époque. Alors je vais vous évoquer un témoignage, parce qu'il parle mieux que si je vous fais tout un développement théorique sur la culture de l'annulation. Un témoignage d'une personne qui est biculturelle, il s'appelle Abdou Murray, et il vit aux États-Unis, donc il est américain, occidental, etc. Mais aussi, il vient du Moyen-Orient. Et du Moyen-Orient, vous voyez, donc il connaît l'Orient aussi, donc l'Occident, et l'Orient. Et je vais vous lire un peu son témoignage en essayant de le mettre un petit peu en forme. Dans les premières semaines du confinement lié au coronavirus, ce mot annulé était presque aussi omniprésent que le mot inédit. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le mot inédit est très présent. C'est inédit, voilà, c'est une pandémie inédite. Les premières de projections de cinéma, les concerts et même les saisons sportives entières avaient été annulées. Nous, avec Olivier, on devait aller à Genève, en mai, c'était annulé. Alors que nous élaborions une stratégie pour lutter contre la propagation du Covid. Ce mot annulé, le problème, c'est qu'il a reçu une autre connotation dans notre lexique social ces derniers temps. Il est utilisé lorsque nous annulons des personnes et pas seulement des événements. Il fut un temps où les opinions divergentes, y compris celles qui remettent en cause les mœurs culturellement approuvées, étaient débattues avec des faits et une argumentation solide. Aujourd'hui, lorsqu'une personne fait ou dit quelque chose qui va à l'encontre des préférences culturelles actuelles, nous l'annulons. Hein, regardez à la télé, on annule des gens. Bon, plus partie de nous. Nous la faisons taire avec des noms, des épithètes, des attaques. Ad hominem. Si elle est un musicien, nous appelons au boycott de sa musique. Si c'est un athlète, nous nous réjouissons de brûler son maillot et d'afficher ce jeu de feu de joie sur les médias sociaux. Nous hissons maintenant les personnes socialement coupables sur une pique. Pour que tous puissent les voir se tortiller, méritant à juste titre ce qu'elles reçoivent pour avoir offensé le collectif. Soyez avertis, nous ne nous engagerons pas à défendre vos idées. Nous nous engageons contre vous et vous ferons honte pour vous faire disparaître. Vous serez annulés. Alors la première chose, c'est que la culture de l'annulation est d'abord une culture orientale. N'est pas du tout occidentale, mais elle vient chez nous. Et en tant que personne biculturelle, dit-il, occidentale et orientale, je vois à quel point ce phénomène occidental est vraiment oriental. Je suis né et j'ai grandi aux États-Unis, mais mon héritage et mon éducation sont imprégnés de l'huile d'olive, de la culture du Moyen-Orient. Historiquement, l'Occident a toujours défendu le droit de l'individu à dire, à croire, à agir comme il l'entend. D'ailleurs, Luther lui-même a fait ce revirement au moment de son tribunal de Worms. Et dans la nuit, Dieu lui a parlé et il a renversé aussi la situation de l'époque où le dogme de l'Église collectif était prédominant. On devait penser comme l'Église a dit « ma conscience, je ne peux pas aller au-delà de ma conscience ». Et il a déclaré ce qu'il a déclaré et c'est le protestantisme est né à ce moment-là sur la base du respect de l'individu. Les mérites de la parole, des croyances et des actions de cette personne seraient débattus même si le droit de les détenir est défendu. En Orient, ou au Moyen-Orient, la collectivité passe en premier. Chaque personne en Orient doit considérer l'effet de ses paroles, ses croyances et ses actions qu'elles ont sur la collectivité. Les cultures orientales sont des cultures de la honte et de l'honneur. Les individus parleront, agiront, croiront de façon à porter l'honneur à la communauté et à leur éviter la honte. La vérité est importante, mais elle doit être balayée sous le tapis si le fait de l'embrasser ou même de l'entretenir doit faire honte à cette communauté, tellement la communauté est une valeur supérieure à l'individu. Aujourd'hui, dit-il, et je partage son point de vue, il y a un mélange entre innocence-culpabilité, qui est le fruit de l'Occident, et honneur et honte, qui traversent l'Occident et l'Orient, donc les deux maintenant vont être au même niveau. En Occident, l'individualisme et le paradoxe innocence-culpabilité, puisque vous savez très bien que quand vous avez fait quelque chose, tout de suite, on est basé sur la présomption d'innocence. On part de l'idée que vous êtes innocent, et on va prouver que vous avez fait quelque chose de mal. C'est pas du tout le cas en Orient. En Orient, on va vous pousser à vous-même vous culpabiliser pour le bienfait de la collectivité. Vous voyez tous ces documentaires sur Arte dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais avec l'essor de la culture de l'annulation, le paradigme honneur et honte de l'engagement social devient de plus en plus dominant en Occident. C'est la culture de l'annulation. On vous annule. D'aujourd'hui. Les orientaux sont meilleurs à ce niveau dans la culture de la honte, de honneur-honte, parce qu'ils le pratiquent depuis des siècles. Mais les occidentaux essaient de rattraper le retard. Alors un exemple. Les exemples de cette culture de l'annulation abondent. Par exemple, un étudiant de lycée fut accepté à Harvard, la prestigieuse école aux États-Unis, université. Mais finalement, son inscription fut annulée en raison de messages inappropriés qu'il avait écrits à l'âge de 16 ans. L'étudiant a exprimé ses regrets en déclarant « Je vois maintenant le monde avec des yeux différents et je suis gêné par le gamin mesquin et désinvolte représenté dans ses captures d'écran. » Et le comité d'admission de Harvard a voté pour le maintenir à l'écart. Il est certain que les commentaires que cet étudiant avait formulés étaient inappropriés, dans les termes les plus forts. Bien qu'il se fût excusé, il a été annulé par Harvard, et plus important encore, par d'innombrables autres personnes sur Twitter. La réponse, en effet, il l'a bien saisie. Je suis sur le point de mettre fin à toute carrière de cet homme. Dans la culture de l'annulation, une seule erreur est perpétuellement impardonnable. Car il ne s'agit pas simplement d'un acte coupable. L'erreur définit plutôt l'identité de l'individu. C'est une erreur. Le transformant en une personne honteuse. Quelqu'un qui peut être annulé. Alors l'auteur de cet article dit que comme c'est oriental. Juliette November a résumé les différences entre les deux cultures, occidentale et orientale, de la manière suivante. Dans un cadre occidental, je me sentirais coupable parce que j'ai fait quelque chose de mal, sur des faits. Et dans un cadre oriental d'honneur et de honte, je serais coupable parce que je suis mauvais aux yeux de la société. Je suis un mauvais. Devenir quelqu'un de mauvais signifie que la rédemption ne vient pas en réparant l'erreur. Les excuses ne suffisent pas. Alors, il prend la culture de Jésus, enfin au temps de Jésus. Bon, voilà. Et cette culture existait déjà. Mais elle était romaine, elle était gréco-romaine. C'est pas la culture du royaume. Mais Jésus était dans cette culture-là, orientale, de son époque. Alors, on va prendre un exemple. Bien vous faire comprendre ce que c'est que cette culture de l'annulation. En Occident, nous considérons parfois que Jésus est bien intentionné, mais qu'aujourd'hui, il n'est plus pertinent. Le fait, cependant, que l'Occident moderne commence à ressembler à la culture de l'Occident antique que Jésus habitait suggère que ces passages ne sont pas passés de mode et ils nous parlent aujourd'hui. En fait, Jésus est plus pertinent aujourd'hui que jamais. Et c'est pour ça que vous devez utiliser la Bible aussi dans votre évangélisation pour encourager les gens à dire, voilà, c'est encore plus actuel que jamais, cette culture qui est présentée dans la Bible. L'histoire de l'aveugle, par exemple, qui est désavoué par ses parents et chassé par les chefs religieux, a fourni un exemple. Vous vous rappelez cette histoire ? Dans Jean 9, je ne vais pas le lire, j'ai plus trop de temps, mais lisez dans Jean 9 cette histoire de l'aveugle né. Nous lisons que Jésus rencontra un jeune homme qui était né aveugle. L'étincelle du problème de Jean 9 qui allumait la confrontation entre Jésus et les pharisiens est le fait que Jésus a guéri la vue du jeune homme en faisant de la boue et en l'appliquant sur ses yeux. En plus, Jésus travaillait le jour du sabbat, ce qui est effectivement interdit dans la loi de Moïse. Interrogé par les pharisiens, les parents qui ont mis au monde cet enfant né aveugle, eurent tellement peur d'admettre que Jésus l'avait guéri, qu'ils ont obligé les pharisiens à interroger directement leur fils. Interrogez-le directement. Rappelez. Et ses parents dirent ces choses, pourquoi ? C'est là, on est dans la culture de l'annulation. Ils le disaient parce qu'ils craignaient les Juifs, car ceux-ci avait déjà convenu, et c'était clair pour tout le monde, que si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il devait être chassé de la synagogue. C'est dans le verset 22 de l'évangile de Jean, chapitre 9. La plus grande honte publique de toutes, il allait le subir. Voyez-vous ? Leur fils, qui maintenant voyait pour la première fois, ne fut pas intimidé socialement, il tint tête aux pharisiens et répondit franchement et avec sarcasme, vous remarquerez, que Jésus l'avait guéri. Donc il passe outre cette mesure. Incapable de relever le défi public lié à leur sens de l'honneur, les pharisiens ont donné le coup de poing de la honte collective en chassant le jeune homme de la synagogue. Cela allait définir son identité. C'est un annulé. Il est chassé. En bref, les pharisiens l'avaient annulé. Voyez-vous, c'est la culture de l'annulation. Le pouvoir du collectif, eh bien, tu ne feras plus partie de nous. C'est terminé. Et toute la société, eh bien, allait le regarder de travers parce qu'il a été annulé. Moi, j'ai connu ça un petit peu aussi quand j'étais jeune, dans mon village, dans ma ville. Voilà, tout le monde devait faire pareil. Et voilà, mes parents étaient très attentifs. Et quand je me suis converti, c'était un scandale, pas possible. Dans une famille catholique très conservatrice, quelqu'un qui embrasse le protestantisme, c'était une annulation. J'ai été annulé de ma famille. Alors, pour revenir à l'histoire de Jésus, Jean 9, vous savez, Jésus avait un radar. Il savait retrouver les choses. Et il a retrouvé le jeune homme qui avait été guéri et qui a subi cette honte de la part de la société au travers des pharisiens. Et Jésus, avec une tendre autorité, vous verrez, a révélé qu'il était le Messie promis à cet aveugle guéri. Il a donné au jeune homme non seulement l'honneur de sa vue physique, mais aussi l'honneur supérieur de la vue spirituelle. Jésus a transformé son identité, marquée par la honte, en une identité marquée par l'honneur. L'honneur de faire partie du royaume de Dieu, du peuple de Dieu. Il a remplacé un honneur social, temporaire, accordé par les pharisiens, par un honneur transcendant, qui dépasse toutes les cultures, et accordé uniquement par Dieu. Jésus aime celui qui est annulé. Voyez-vous, Jésus aime ceux qui sont annulés, où on leur a repris leur identité. Dans la culture de l'annulation, nous sommes définis par notre dernière erreur. Regardez le nombre de gens qui aujourd'hui sont infectés par ça. La restauration sociale est rare. Mais le fait d'être annulé ne peut pas définir ses victimes. Malheureusement, parfois, ils le définissent. Et Jésus, après tout, a compté des personnes annulées. Il a compté parmi ses disciples des percepteurs d'impôts, qui étaient annulés pour des raisons évidentes, des fanatiques politiques, des prostituées, qui étaient aussi annulées de la société de l'époque. Parmi ses disciples, ils étaient des disciples de Jésus. Jésus n'était pas disposé à annuler Thomas, qui a douté, rappelez-vous, il n'a pas annulé. Pierre, il a renié Jésus trois fois, il n'a pas annulé. Il a restitué, il lui a redonné son identité simplement, et il lui a donné une bonne leçon dans cette relation d'aide. Pierre, m'aimes-tu ? Seigneur, bien sûr, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Ah oui, je t'aime. Et la troisième fois, il a craqué, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus l'a mis à l'épreuve, mais il l'a remis dans le circuit de son disciple. Il ne l'a pas annulé, voyez-vous, la culture de l'annulation n'est pas du tout biblique. Elle est transformatrice, elle est révolutionnaire, elle est formidable. Et c'est ce que le christianisme a apporté. Et la déchristianisation, les gens ne connaissent plus ni la Bible, même les chrétiens ne connaissent pas. Et c'est pour ça que ça s'accélère, la déchristianisation, parce que les chrétiens ne peuvent même plus contrer ceux du monde pour dire non. Le christianisme, vous voyez, au lieu de dire Jésus est vivant, il est acceptez-le, c'est très bien de dire ça. Mais ce serait bien d'avoir un discours qui est adapté à ce que nous vivons. Comme vous discutez avec des gens, bien sûr, tout le monde ne va pas vous suivre dans vos réflexions. Peu importe. Mais si vous trouvez des gens qui discutent, Jésus a vu Nathanaël qui est derrière son arbre et il savait qu'il allait réfléchir. Bien sûr, il faut réfléchir un peu. Mais il y a des gens qui réfléchissent. Hein. Je suis désolé. Il n'y a pas que des bourrins. Donc, rencontrez-les. Mais discutez intelligemment. Vous voyez, là, par exemple, là, vous avez un texte magnifique qui montre l'intérêt du christianisme par rapport au paganisme qui se redéveloppe. Qui est effectivement pratiqué dans ceux qui n'ont été... je sais que le Japon a été christianisé assez tard, la Corée, je crois Corée du Sud, c'est il y a 150 ans, 180 ans, c'est ça ? 19e siècle, ouais, donc vous voyez, c'est, voilà. Donc voilà, on peut pas leur en vouloir qu'il n'ait pas autant de culture chrétienne, mais nous, on l'enterre maintenant. Celle qu'on avait, on l'enterre. À la dernière proposition de faire passer la Constitution européenne, notre Valérie Giscard d'Estaing qui a conduit les réflexions de plusieurs années, elle a proposé tout simplement dans un préambule d'éradiquer le christianisme. L'Occident, l'Europe a commencé au siècle des Lumières, tiens, comme par hasard, 18e siècle. Voilà. C'est le siècle qui a déchristianisé. C'est pas le hasard, c'est volontaire. Et en plus, c'est écrit dans la Constitution. Alors, le problème, c'est que ça n'a pas passé. Pour une fois, les Français ont été très intelligents avec les Hollandais, ce qui n'a pas été le cas des autres. Donc, vous voyez, donc quoi, il ne faut pas enterrer comme ça les pays. Il y a une certaine intelligence. Sauf que nos politiques n'ont pas été contents. Ils ont resservi le plateau à Lisbonne. Quelques années après, ils ont enlevé le préambule. Okay, parce que les Polonais, ils n'ont pas d'accord. Le pape, il a hurlé à juste titre, etc., que c'est un scandale historique de dire que l'Europe a commencé au 18e, quoi, alors qu'il a commencé à Clovis. Clovis, ça remonte à combien ? 8e siècle, 9e siècle, voilà. Charlemagne et tout ça. Enfin, voilà, pourquoi on apprend ça à l'école et puis là, d'un seul coup, Constitution vous dit oui, on est tombé sur la tête, mais il y a une volonté délibérée de déchristianiser. Et quand on déchristianise, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive tout naturellement ? Le paganisme. Et le paganisme, c'est quoi ? c'est l'adoration des dieux locaux, des dieux qui ont jamais disparu. Quand le nazisme en Allemagne est monté au niveau politique, il était préparé, cette montée. Cette montée était préparée minutieusement. Et les jeunes, on les emmenait dans les campagnes allemandes, qui sont très belles, ceux qui ont vécu, qui ont été en Allemagne, il y a des très belles forêts, encore plus belles quand on va vers la Tchécoslovaquie, puisque Narnia était filmé là, dans ces forêts absolument extraordinaires. On envoyait les jeunes faire du scoutisme. Il n'y a rien de mal à faire du scoutisme. Hein, mais il y avait une volonté. Hein, d'aimer la nature, de retoucher la nature, de vivre des choses dans la nature. Voyez. Et petit à petit, tous les vieux mythes allemands ont été remis au goût du jour. Hein, comment l'Allemagne est venue avec les elfes, les machins, etc. Voilà. Ok. Et le nazisme, comme ça, est remonté, et les dieux qui ont été adorés par d'autres, alors là c'était des élites qui étaient secrètes autour de Hitler, mais là c'est de la sorcellerie, là, et on parlera le dimanche prochain de la sorcellerie de TikTok. Tout ça va ensemble. Tout ça, c'est ensemble. Et aujourd'hui, les dieux celtes, ils remontent, les dieux celtes en France. Hein, c'était avant que les chrétiens arrivent, il y avait les celtes. Il y avait tout plein d'hôtels, juste comme ça, et les menhirs à Carnac, tout ça, c'était pour influencer les choses de l'époque. Et bien aujourd'hui, maintenant, c'est remis au goût du jour. Quand Léon XIII, je crois, a reçu des retours de ces évangélisateurs, de ces gens qui parcouraient l'Europe à l'époque, et qui disaient, mais on n'arrive plus, il y a des victoires, il y a des gens qui acceptent Christ, mais on n'y arrive plus. Vous voyez, c'est comme nous, on essaie d'évangéliser, on n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Alors, on a... heureusement, un écrit. Vous voyez, c'est plus on a entendu de quelqu'un qui a dit, etc. Non, il a écrit, il a fait un décret, il leur a envoyé ça. Ça s'appelle une encyclique, enfin une lettre, qui est circulaire. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, mais écoutez, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Simplement, christianiser les lieux païens. Ça veut dire quoi? Si vous avez un menhir, vous gravez une croix dessus, donc il devient chrétien. Il a christianisé. Si vous avez une fête païenne, le 15 août par exemple, c'était le cas, parce que toutes les fêtes sont liées à l'astrologie, dans le paganisme qui revient, il disait, vous faites une fête. Voilà, vous faites une fête chrétienne. Ce qui fait que au lieu les gens qui aillent sur les lieux païens, ils viennent dans l'église et puis ils sont chrétiens. Vous voyez, c'est ça la christianisation. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ils leur connaissaient qu'ils n'y arrivaient pas. Parce que c'est une action de l'esprit. On ne peut pas le provoquer. Mais christianiser, ça ne remplace pas. Au contraire, ça remet tout le paganisme en souterrain qui va remonter, et c'est ce qui se passe en ce moment. Maintenant, il remonte. Alors on l'édulcore, on lui met des nœuds papillons, aux démons et tout ça. Un jour, il y a Michel qui parlait, je sais plus quand, dans quel avec les Pokémon. Vous vous rappelez les Pokémon? C'est vieux maintenant. Nos voisins, ils faisaient ça, et ils ont dit, mais non, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Alors, comme elle ne savait pas, elle est comme moi curieuse, elle est allée à Auchan et ils vendaient des boîtes de Pokémon. Et puis, il a regardé derrière, quoi. Et puis derrière, ils expliquaient tous les démons. Et l'auteur, il disait, tout ça, c'est des noms que j'ai inventés. Athéna, pas inventé. Pratiquement 80% des noms, c'était des noms connus. Mais comme il dit aux jeunes qui jouent, c'est inventé, oui, c'est virtuel, c'est inventé, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. En fait, c'est les vieux dieux, les vieux démons, qui ont été comment on appelle ça, remis au goût du jour, enfin voilà, dans ces jeux, etc. Et aujourd'hui, TikTok, on en parlera, c'est exactement ça. On ne peut pas être neutre. On n'est pas dans un monde neutre. Ou c'est Dieu, ou c'est les idoles. Et ça a été le défi d'Élie. Élie était confronté à ça. Tout le peuple est reparti dans le paganisme. Tout le peuple d'Israël, à part, bien sûr, les 700 qui ont résisté, mais qui ont dû se réfugier dans une caverne pour ne pas être massacrés par Jézabel. C'est comme aujourd'hui, c'est pareil. Même les chrétiens retournent à ça. Et c'est très subtil. Très, très subtil. Et surtout nos enfants. C'est pourquoi je vous mets en garde. Ceux qui ont des enfants, qui veulent avoir des enfants, eh bien, il y a de quoi utiliser un peu les genoux de prière pour eux, parce qu'ils ne s'en sortiront pas tout seuls si vous ne les aidez pas, si l'Église ne les aide pas, si les aînés ne les aident pas. Voyez-vous là où d'autres répondraient à notre honte par l'indignation, Jésus répond par l'amour, le pardon, la grâce. Beaucoup sont à la recherche d'une identité retrouver ou même racheter. La culture ne le leur donnera pas, surtout pas notre culture actuelle. Mais Jésus le peut. Si le monde adopte cette culture de l'annulation, prions pour que l'Église ne l'adopte pas, ne suive pas cette mode, mais qu'elle redonne l'honneur, la dignité qui est due à chaque être humain, même s'il a fauté. Il y a Jacques Poujol, je ne sais pas s'il le répète par rapport à d'autres, certainement. Vous savez, beaucoup de choses qu'on dit, on le répète de quelqu'un qui l'a déjà dit. Moi, j'aime bien donner mes sources. Tout le monde ne le fait pas, mais j'aime bien quand j'ai des sources. Bon, je peux très bien dire quelque chose que personne n'a dit, mais bon, pas de prétention. Jacques Poujol disait que l'Église, c'est l'endroit où on fait mourir ses malades. Voilà, on, je ne sais plus comment il le dit, parce qu'il a une façon un peu crue de dire les choses. On abat ses malades. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que lui, il est psychologue et il fait un peu attention à ce qui se passe dans les églises. On abat ses malades. C'est le seul endroit où c'est un endroit où on abat les malades. Je vous donne un exemple. Les pasteurs, que je connais aussi, qui par exemple ont fauté. Une erreur. Ils ont fait adultère. Mais ils n'ont pas intérêt à le dire. Ils n'ont surtout pas intérêt à le dire. Parce que cette faute va obligatoirement... Enfin, je parle de certains milieux. Je ne généralise pas. On était avec Michel dans l'église où est Jean-Paul Englert et le pasteur justement a expliqué comment il restaure certains pasteurs qui ont chuté. Mais dans certaines fédérations, vous n'avez pas intérêt à le dire. Fédération Baptiste non plus. Sinon, c'est fini. C'est fini. Vous êtes annulé. Est-ce que l'Église suit la mode, suit la tendance, alors que Jésus a restauré quelqu'un qui est... Alors bien sûr, il y a des conditions. Jésus dit « va, ne pêche plus hein ». Il a restauré la prostituée. Il a dit « va, ne pêche plus ». Mais il ne lui a pas mis un bracelet électronique pour suivre qu'est-ce qu'il fait, etc. Vous voyez, il fait confiance parce qu'on est restauré. Pourquoi? Parce qu'au jugement dernier, on devra répondre de nos actes. Et ça, beaucoup de chrétiens l'oublient. Et je prie que la conscience revienne chez les chrétiens pour voir qu'on est... notre individualité, elle est respectée dans le christianisme, mais aussi notre responsabilité. On répondra de nos actes. Et si on a été comme cet homme qui a serré le cou de celui qui lui devait une petite pièce alors qu'il venait d'être libéré de toute une somme d'argent. Vous voyez, souvent, est-ce qu'on est comme ça hein? Ou est-ce qu'on libère la grâce de la même manière que ce qui nous a été gracié? Nous a été gracié du péché, que personne ne peut payer, personne. C'est le sang de Jésus seul qui peut nous gracier. Alors comment pouvons-nous être durs avec les autres? C'est pourquoi nous devons utiliser l'amour. L'amour, c'est l'amour qui unit. Amen. Bon, la discipline, ça n'empêche pas d'être discipliné dans l'Église, c'est autre chose. Ça, c'est les responsables seuls qui doivent exercer la discipline. Elle doit exister, parce que sinon, il n'y a plus de collectif. Hein. Okay. La discipline, il y a une façon de le faire. Hein. C'est une façon de le faire pour dire, voilà, va, ne pêche plus. Là, ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est surtout pas bien. Tu as intérêt à changer pour toi, pour l'Église. Mais voilà, on te gracie. Et ça, c'est une, voilà, c'est des gens mûrs qui doivent le faire. C'est pas tout et n'importe qui dans l'Église. C'est pour ça que souvent dans les églises, voilà, bon, là, Michel pourrait témoigner mieux que moi, parce qu'il a vécu dans une église depuis tout petit. Hein, il est venu avec une Bible sous le bras quand elle est née. Mais il disait que les bonnes vieilles femmes, je ne sais pas pourquoi, qui critiquaient tout le monde, et ils cachaient leur mal dans leur chignon. Hein, leur chignon, voilà, parce que voilà, elles avaient coupé pas leurs cheveux, ils mettaient les chignons, et hop, elles jugeaient les petites qui coupaient les cheveux à l'époque, ou mettaient les pantalons, etc. Et c'est elles qui étaient les pires avec leur mari, les pires avec leur. Voilà, c'était des teignes, mais pas possible, quoi. Voilà, on parlait avec Michel. On cache son jeu. Jésus le voit. Jésus voit si on cache notre jeu. Donc il faut être responsable. Il faut répondre de nos actes. Mais le Seigneur, eh bien, il relève ceux qui sont annulés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup qui sont annulés. C'est pour ça, ne cherchons pas des pièces, des places dans la société. Hein, que ce soit sur Twitter ou autre, etc. Parce que ce qui nous attend, c'est d'être annulé. Or, Jésus nous a relevés. Amen. Il nous a donné l'honneur qui nous est dû. Il nous a donné la dignité. Il nous a donné l'identité en lui. Et c'est le seul endroit au monde où ça existe, parce que c'est le royaume de Dieu. Amen. Celui qui ne changera pas, celui qui ne sera pas détruit, celui qui vivra éternellement, c'est ce royaume dans lequel nous voulons aller, où il y a la dignité, l'honneur, où il y a l'individu et le collectif. Il y a l'individu qui est mis en valeur et l'Église, il y a un seul corps, c'est une seule Église, c'est un seul collectif, vous voyez ? Et on est dans la pensée complexe que je développerai à l'université d'été pour ceux qui viennent, pour montrer que grâce à cette pensée, on peut être conforme à la parole qui, elle, manie les deux paradoxes. Ce paradoxe qui est effectivement difficile à comprendre dans une logique simple, mais qui est le produit du royaume de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, toi, tu n'annules pas les personnes. Au contraire, tu prends ceux qui sont annulés, parce que souvent, ils sont en recherche d'identité, et tu les rétablis dans un honneur, dans une dignité transcendante, celle qui durera éternellement. D'ailleurs, tu vois, le monde cherche la dignité, des choses comme ça, avec des stars sur Hollywood, etc. Mais cette étoile, elle disparaît. Mais Seigneur, ton étoile que tu nous as mis sur le cœur, eh bien, dure à toujours. Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé, nous le croyons, et nous te remercions, Seigneur, de ce que c'est une réalité que nous pourrons vivre, et nous t'en remercions, Seigneur. Donne-nous ta grâce, et donne-nous en tant qu'Église de manifester cet amour, de rejeter tout jugement, Seigneur. Tu as dit ne jugez pas, sachant que la discipline, c'est autre chose, c'est juger non pas la personne, mais juger ce qu'il fait. Eh bien, Seigneur, que cette grâce revienne dans ton Église et que nous puissions la vivre afin de faire envie à ceux qui sont dans cette culture d'annulation et qui vont chercher une nouvelle identité, que nous soyons prêts à leur tendre la main, à les amener vers toi, toi seul, qui peux leur redonner ce qu'ils ont perdu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.